Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Voici les titres de votre journal vespéral. Deux étudiants membres d'une même famille tués dans un incendie de leur domicile causé par des jeunes ici à Kinshasa dans la commune de Matete. La police du Moamba ainsi que le parquet de Matete se sont saisis de ce dossier dont la cause n'est pas encore connue. À Bounia, dans l'Ituri, les FARDC ont libéré en l'espace d'une semaine au moins 25 otages des mains de ZADF et Mai Mai Kianganda. Selon l'armée, c'est grâce aux opérations militaires de grande envergure contre ces ravisseurs. L'invité de ce journal est le coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Avec Maître Omar Kavota, nous allons parler de l'implantation et des défis à Beni du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux étudiants membres d'une même famille sont décédés hier mardi pour le premier et ce mercredi matin pour le second. Héritier et Glodis Mongoloka ont été victimes de l'attaque de leur domicile par une bande de jeunes hier matin sur la première rue au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Ces jeunes ont aussi incendié la maison. La police du Moamba ainsi que le parquet de Matete se sont saisis du dossier. Des précisions avec un témoin habitant cette parcelle.
Mardi, comme 8h-9h,
nous avons vu une quarantaine de personnes venir en chantant. Nous sommes entrés dans la parcelle et nous avons fermé pensant qu'ils passaient. Ils ont escaladé les murs, ils ont commencé à tout casser dans ma maison. Et puis un garçon qu'ils appelaient Eto est intervenu disant que je vous ai dit c'est l'autre maison qu'il faut attaquer. Ils ont trouvé Glody dans l'autre maison, ils lui ont brisé les coups et mis le feu sur lui. Ils ont aussi versé de l'essence et mis le feu sur Héritier, notre autre frère, puis ils les ont enfermés en flammes dans la maison. Après leur départ, nous avons trouvé Glody déjà mort sur les lits, Héritier grièvement brûlé et mort à 4 heures aux cliniques universitaires. Nous avons donc deux morts dans la parcelle.
C'est le 18 janvier prochain qu'on saura si le président honoraire Joseph Kabila devra ou non comparaître au procès du double assassinat défenseur des droits de l'homme Floribert Tchebeya et Fidel Bazana. Il en est de même aussi de toutes les personnalités citées par le prévenu Paul Mwilambwe. À l'audience publique ce mercredi à la prison militaire de Ndolo, ici à Kinshasa, les partis civils, familles Tchebeya et Bazana, en ont formulé la demande. Le ministère public a donné un avis favorable dans l'intérêt, a-t-il dit, d'un procès équitable pour élucider certaines zones d'ombre. Et la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe a promis d'y répondre. Dans la province de la Tchopo, les médecins et les activistes des droits de l'homme exigent la libération du docteur Eric Upoki. Ce jeune médecin des cliniques universitaires de Kisangani est détenu à l'auditorat militaire dans le cadre de l'affaire du meurtre d'un soldat de la garde républicaine lynché par des inconnus dans la nuit du 31 décembre dernier. Le récit des faits avec Jacques Moukonkolé.
Le jeune Eric Upoki est poursuivi par l'auditoire militaire pour non-assistance à personne en danger. Selon ses confrères, un homme habillé en civil, en fuite après des alertes des gardes malades, avait été victime de la justice populaire. Et ce, après avoir été rattrapé par des inconnus qui l'avaient fait subir la justice populaire. Ses bourreaux lui auraient reproché le vol des téléphones des malades internés aux cliniques universitaires. Cette nuit-là, le docteur Eric Upoki avait assuré la garde dans le cadre des enquêtes menées par l'auditorat militaire, ce médecin a été arrêté le 7 janvier dernier. Ses confrères exigent son relâchement. Ils ne voient pas comment un médecin de garde veillant sur ses patients pouvait les abandonner pour aller intervenir dans une affaire qui se déroulait dans la rue et dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Pour sa part, un député provincial plaide pour sa liberté provisoire en attendant l'aboutissement des enquêtes, puisque, estime Tovele Lotika, sa fuite n'est pas à craindre. Cependant, l'auditorat militaire tient à tout prix à le mettre à la disposition du tribunal pour sa comparution. Entre-temps, Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, dénonce ce qu'il qualifie des menaces et des injures qui lui seraient proférées au téléphone par certains officiers militaires. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
En Ituri, au moins 35 otages des ADF et Mai Mai Kianganda ont été libérés en l'espace d'une semaine par les FARDC dans les localités d'Outmaber et Ndimo, au sud du territoire d'Irumu. Selon l'armée, c'est grâce aux opérations militaires de grande envergure contre ces rebelles que ces personnes ont réussi à s'échapper des mains de leurs ravisseurs. La société civile locale salue cette action des forces loyalistes. Des détails avec Marcel Kizabiamungu.
C'est depuis le week-end dernier que les FARDC ont intensifié leurs opérations contre des éléments armés du groupe Mai Mai Kyangenda et des rebelles de ZADF dissimulés dans la forêt d'Outmaber Ndimo sur l'axe Komandaluna. L'objectif selon l'armée est de détruire les positions de ces hommes armés qui cherchent à tout prix à s'organiser dans la zone afin de s'attaquer aux civils. Le dimanche dernier, les FARDC ont réussi à libérer 25 otages de Mai Mai Kyangenda réputés proches de ZADF. Il s'agit des personnes captives la semaine dernière sur la route Outmaber Kasoko. Hier mardi, 7 autres otages ont été récupérés par les FARDC en 10 mois après des combats. Ils s'ajoutent aux 8 autres otages présentés lundi au gouverneur des provinces. Les porte-parole de l'armée à Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo.
Pour mener à bien ces opérations, nous sollicitons l'accompagnement indéfectible de notre population et nous les appelons déguiser la flamme patriotique.
Sur place de la région des commandats, ces libérations sont saluées par la population. Des membres de la société civile locale souhaitent que ces opérations se poursuivent pour permettre les retours des populations dans leur village. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, en bref, ouverture cette semaine à Drodro d'une base temporaire par la MONUSCO. Selon un communiqué du bureau du porte-parole de la mission onusienne en RDC, c'est pour faciliter le retour des déplacés qui avaient fui les attaques des miliciens de Codeco contre leur village. Des attaques qui avaient entraîné un afflux de plus de 70 000 personnes vers un autre site de la MONUSCO à Ro. Par ailleurs, la même source indique que la MONUSCO se propose d'offrir pendant 3 mois du carburant à 6 radios communautaires de Komanda et Aveba afin d'appuyer ces médias locaux à accomplir leur service. La première livraison a eu lieu le 10 janvier dernier à sa base militaire d'Aveba. Au Nord Kivu, l'eau de la régie des eaux coule de nouveau depuis hier soir au robinet dans les 8 quartiers de la ville de Goma. Ces contrées étaient privées d'eau potable depuis la fin du week-end dernier. Le directeur provincial de la régie des eaux précise que la partie endommagée du tuyau de la conduite mère des refoulements distributifs a été remplacée par des pièces en fonte appropriées à cet ouvrage. David Angoya explique au micro de Gabriel Wamenya.
Il y a un des tuyaux qui avait connu effectivement un éclatement qui a causé une grande fuite qu'on ne pouvait pas laisser comme ça l'eau échapper dans la nature. Alors on a mis des moyens et des dispositions nécessaires pour pouvoir réparer ces tuyaux et rétablir les transferts d'eau vers les nord. Donc les quartiers qui étaient affectés beaucoup plus, c'était les quartiers un peu à l'écart, les quartiers du nord dans la commune de Karisimbi, et aussi dans les territoires de Niragongo. Donc nous avions dû travailler avec beaucoup d'assiduité durant 2 jours afin de réussir de maîtriser cette pente, cette fuite.
Quelles ont été selon vous les causes technique de cet éclatement de ces tuyaux de refoulement?
Mais de plus en plus, on constate que c'est la fatigue dans l'état de... une fatigue précoce parce que déjà, au niveau des jonctions entre 2 éléments de ces mêmes tuyaux, ça s'est fait à chaud, donc par fusion. C'est à ces niveaux-là que les 2 lèvres s'étaient éclatées du fait de la pression qui est véhiculée dans cet ouvrage, dans cette conduite. C'est là, nous l'avions constaté en plein fonctionnement.
Le directeur provincial de la régie des eaux Nord Kivu n'exclut pas cependant d'éventuelles pannes qui pourraient survenir sur la même conduite, entièrement conçue en plastique et sans parois ni armature. À Lubumbashi, pendant ce temps, de longues files de véhicules s'observent devant plusieurs stations-service de la ville. Le carburant est vendu à compte-gouttes et les automobilistes se bousculent pour avoir le minimum. Les pétroliers disent attendre toujours la publication par le gouvernement de la nouvelle structure des prix, ce qui les éviterait à travailler à perte. Des détails avec Jean Gandou.
Plusieurs stations-service de la ville ne vendent pas le carburant comme à l'accoutumée. Les pétroliers ont peur de continuer d'accumuler les pertes et manques à gagner en vendant le carburant au prix de 2100 francs congolais le litre. Conséquence, à certains endroits, on a assisté à des bousculades entre conducteurs, chacun voulant être servi le premier. D'autres stations ont tout simplement revu à la hausse le prix du litre à la pompe, soit 2500 francs congolais. Pour certains pétroliers contactés, il y a 2 possibilités pour que la situation redevienne normale et qu'il n'y ait pas de rétention des stocks de la part de pétroliers. Soit le gouvernement honore ses engagements en payant tous les 3 mois les pertes et manques à gagner enregistrés par les pétroliers à cause notamment du gel des prix leur imposé. Soit encore qu'il publie la nouvelle structure des prix. Le litre reviendrait à 2700 francs congolais au lieu de 2100 francs congolais. La population, pour sa part, redoute l'effet d'entraînement car la révision à la hausse du prix de carburant aura des répercussions sur les prix du transport en commun et les prix des biens sur le marché seront revus à la hausse et à l'arrivée, c'est le panier de la ménagère qui va en subir le coup. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au sud, Kivu, un mouvement des citoyens rwandais s'observe, si lui le dit du sud, depuis le dimanche passé. Ils disent venir en RDC pour offrir la vaccination forcée contre le Covid-19 dans leur pays. Leur présence est signalée précisément dans la chefferie Ntambuka, à Nyakalengwa, village Lemera. L'ambassadeur du Rwanda en RDC reconnaît la présence d'une centaine de ses compatriotes indique qu'ils ont quitté leur pays suite à une désinformation. Un reportage de Jean Kassami.
Dimanche passé, ils sont arrivés à 20. Le lendemain, ils étaient à 72 et le mardi, leur nombre est passé à 102. L'administrateur du territoire insulaire d'Idjwi, une entité à la limite avec le Rwanda, indique que ces citoyens rwandais ont commencé à débarquer à compte-gouttes dans la chefferie Ntambuka. Karongo Kalaja précise que certains sont regroupés à un endroit où les autorités congolaises les entretiennent sur le mobile de leur présence. D'autres encore ont pris des maisons en location, selon la présidente du bureau de la société civile d'Idjwi, Esther Muratwa.
J'ai envoyé quelqu'un des sous-noyaux de la société civile pour aller s'inquiéter de la situation. Ils disent qu'ils sont en train de cuire les vaccins du Covid-19 au niveau de leur pays.
L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo attribue ce déferlement des Rwandais sur Idjwi Sud à la désinformation. Vincent Karega.
Une centaine, c'est peut-être des mal informés ou qui ont des convictions autres. Il y a certaines églises, par exemple, ou sectes. Les autorités, de part et d'autre, en parlent et une solution va être trouvée immédiatement.
Les forces vives du territoire insulaire se disent préoccupées par cette présence dont le mobile n'est pas clairement élucidé. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku, évêque émérite du diocèse de Mbujimayi et président du conseil d'administration des universités au Congo, a été inhumé ce mercredi à l'université de Kinshasa. Après les cérémonies académiques et autres témoignages de quelques professeurs d'université qui ont travaillé avec lui, dans son discours, le ministre de l'ESU, comme d'ailleurs toute l'assistance, a reconnu en lui une intelligence exceptionnelle. Il était en effet le tout premier recteur noir à diriger l'Ovanium. Richard Junior Kamunga a assisté pour nous aux obsèques.
C'est en effet 30 que le dépouille mortel de Mgr Tarsis Chibangu Tshishiku a été exposé à l'esplanade du bâtiment administratif de l'Université de Kinshasa, où les hommages académiques lui ont été rendus. Une procession des professeurs a été organisée jusqu'à l'église Notre-Dame de la Sagesse. Ici, une messe a été dite par le cardinal Fridolin Ambongo, entouré d'une dizaine d'évêques venus sur l'ensemble du pays. Plusieurs autorités politico-militaires ont assisté aussi à cette cérémonie, notamment le président du Sénat, le président de la Cour constitutionnelle, le chef de la maison civile du chef de l'État. C'est aux environs de 15h que Mgr Tarsis Chibangu Tshishiku a été inhumé dans un mausolée construit juste derrière l'église Notre-Dame de la Sagesse dans l'intimité de quelques membres de sa famille biologique et des clergés catholiques. Pour rappel, Mgr Chibangu Tshishiku est décédé le mercredi 29 décembre 2021 aux cliniques Université de Kinshasa à l'âge de 88 ans. Depuis l'Université de Kinshasa, Richard Junior Kamunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le parquet militaire a annoncé hier mardi l'arrestation de 8 soldats soupçonnés de déstabilisation des institutions de la République. Dans un communiqué, le procureur militaire explique qu'une enquête a été ouverte par la police judiciaire militaire le 8 janvier dernier. Les suspects ont d'ores et déjà été interrogés, notamment le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Même si le procureur militaire n'a pas communiqué les noms des 8 soldats arrêtés, plusieurs sources sécuritaires évoquent le rôle de ce chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando, aussi écrivain et auteur de plusieurs romans. Au Mali, la société civile dénonce les sanctions de la CEDEAO, des sanctions économiques imposées dimanche dernier pour contraindre la junte au pouvoir à organiser au plus vite des élections qui suscitent des craintes importantes chez la population qui se prépare à des sérieuses difficultés liées au gel des avoirs de l'État ou à la suspension des échanges commerciaux avec les pays voisins. Des craintes qui se doublent d'une colère avec le sentiment que les Maliens sont incompris et directement visés par ces sanctions.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Avec Maître Omar Kavota, nous allons parler de l'implantation des défis à Béni du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Il s'entretient avec André Kitengui.
Maître Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
Bientôt, l'installation du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation à Béni, avec l'arrivée de son coordonnateur. Est-ce une bonne nouvelle pour le CEPADO?
Oui, nous sommes très heureux de voir que finalement le coordonnateur du PDD-RCS est arrivé pour faire un état des lieux. Nous estimons que c'est là envie d'implémenter ce programme. Et pour nous, sa présence est un indicateur que nous pouvons espérer à l'effectivité de ce qui a longtemps été attendu. Pour nous, le PDD-RCS, c'est une réponse à notre demande au chef de l'État, parce que nous l'avions demandé de mettre en place un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion communautaire, un programme à correction au précédent programme en rapport avec le DDRR. Qui ont été simples saupoudrages de moyens dont les résultats plausibles n'ont pas été observés. Nous passons donc avec l'arrivée du coordonnateur. Cette fois-ci, il va implémenter ces programmes pour la pacification et la sécurité de chez nous.
Quels sont les défis qui attendent ce nouveau programme de démobilisation et désarmement?
Le premier défi, c'est le contexte lui-même. Nous pensons que le PDD-RCS ne peut réussir que là où l'armée est efficace dans ses opérations de traque contre les groupes armés et le mouvement terroriste. L'adhésion à ce programme dépend de la puissance de feu contre les réfractaires à ce processus ou les autres groupes terroristes qui écument la région. Or, jusqu'à ce jour, nous continuons à attendre, bien qu'il y a des efforts consentis au niveau des FRDC, mais la puissance de feu n'est pas jusque-là de nature à pousser les groupes armés à se désengager immédiatement. Nous voudrions que le FRDC fasse davantage parce que le défi le plus grand, c'est de voir des groupes armés résister parce qu'ils n'ont pas derrière eux la contrainte, la puissance feu pour les obliger de se désengager. Le deuxième défi, ce sont les moyens mis en place parce que si la République ne consacre pas d'énormes moyens pour la sensibilisation des communautés ou des groupes armés, et pour la prise en charge des rendus et leur réinsertion réussie, le programme pourra connaître un échec. Vous savez que depuis un certain temps, nous avons des combattants qui sont cantonnés à Kalunguta, d'autres traînent encore à Mubambiro et même dans le sud Lubero. Ces combattants qui se sont rendus, même avant le début de ce programme, n'ont jamais été sérieusement pris en charge et d'autres ont commencé à fuir les centres de cantonnement. Ça, c'est un défi important. Parce qu'il faut encourager ceux qui traînent les pas ou les pieds en brousse à venir et cela ne dépendra que de la manière dont ceux qui se sont rendus ont été pris en charge. Enfin, les complicités locales et les manipulations politiciennes. Vous savez que nous sommes dans une contrée où certains, pour se faire la santé politique, ils passent par les groupes armés. Or, le processus de désarmement ou de démobilisation des réinsertions communautaires, c'est un obstacle à ceux qui croient aux groupes armés comme leur moyen pour accéder au pouvoir. Ces gens-là peuvent manipuler les groupes armés, ils peuvent manipuler la communauté pour résister contre le PDD-RCS. Et il faut que nous puissions considérer cela comme un défi aux côtés de la mobilisation de moyens par les partenaires techniques et financiers.
Le CEPADO milite pour la promotion de la paix. Quelles sont vos attentes présentement avec l'installation de ce programme de démobilisation et désarmement?
Nous souhaitons une appropriation effective de ce programme par toutes les communautés, par tous les acteurs sociopolitiques et communautaires. Parce que sans l'appropriation de ce programme par tous ces acteurs, cela risque de ne pas marcher. Mais aussi, nous attendons la mise en œuvre de programmes qui reposent sur des acteurs crédibles, non pas des manipulateurs assoiffés d'argent, qui risquent de s'ériger en obstacle et à manipuler les groupes armés ou les communautés contre ce programme. Et enfin, nous attendons que le PDD-RCS tire les leçons des échecs des programmes précédents. Tijar Konader et autres, dont les animateurs ne se sont servis qu'eux-mêmes, laissant le problème entier, le problème de sécurité, laissant les rendus ou les membres des groupes armés resserrés pour compte.
Maître Omar Kavota, je vous remercie.
Merci à Radio Okapi.
Et c'était notre invité, Maître Omar Kavota. Il est le coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Il s'entretenait avec André Kitenge. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.